Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier et bonjour à tous.
Et au sommaire des enjeux, donc, les élections américaines.
Et oui, victoire donc des démocrates à la Chambre des représentants, résistance républicaine au Sénat, le référendum pour ou contre Donald Trump a finalement tourné en un résultat assez classique. Alors Trump rattrapé par l'histoire ou par l'avenir, on voit ça avec vous Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venu en studio ce matin. Vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, auteur de Trump, La revanche de l'homme blanc, tout récemment. Alors, cohabitation à l'américaine. En tout cas, première remarque, ce qui est intéressant par rapport à 2016, Marie-Cécile Nave, c'est que c'est un résultat qui ne dément pas les derniers sondages qui donnaient de très bonnes chances aux démocrates d'emporter le Congrès et de très bonnes chances aux républicains de résister.
Oui, absolument. Et les sondeurs avaient été très prudents dans les semaines qui viennent de se dérouler, avec un mode de calcul sans doute affiné par rapport à 2016 en tenant compte des réalités locales et puis des modes de scrutin, et non pas simplement un sondage au niveau national. Et effectivement, le Sénat reste dans les mains des républicains. On va voir avec quelle ampleur, et la Chambre des représentants bascule pour les démocrates, ce qui augure deux années très très riches pour nous commentateurs et observateurs, et très très compliquées, très très complexes pour le président américain. Mais c'est aussi une dynamique d'espoir pour le parti démocrate qui va voir dans les semaines qui viennent déjà plusieurs candidats possibles pour les primaires se positionner, et sans doute que le Parti démocrate va être contraint de renouveler son agenda, de renouveler son offre politique, parce que la demande de ce renouveau existe. On n'a pas seulement des nouvelles figures qui arrivent, on en parlera peut-être tout à l'heure, beaucoup de femmes sans doute qui vont arriver à la Chambre des représentants, mais ce sont aussi des femmes beaucoup issues de la diversité. On a deux élus musulmanes, des africaines américaines, des native americans. Mais au-delà de ce qu'elles sont par leur identité, et d'ailleurs assumée, elles portent aussi un agenda nouveau qui est parfois plus à gauche que ce que les instances du parti promeuvent depuis 2016.
Alors ensuite, on n'a pas encore les chiffres définitifs, donc c'est difficile, mais il y a quand même deux données majeures. C'est d'abord que Donald Trump, en un sens, a perdu le référendum sur son nom. Vous allez dire si vous êtes d'accord, vu qu'on n'a pas l'ampleur de cette vague. Et en même temps, peut-être trop tôt pour dire qu'il a gagné la bataille de la mobilisation. Mais si les démocrates ont remporté le Congrès, c'est bien que, en un sens, cette mobilisation a fonctionné pour eux.
Oui, je fais la même analyse que vous. Avec les données dont on dispose à cette heure-là, le Sénat était vraiment quasiment impossible à prendre, étant donné que mais beaucoup plus de démocrates qui remettaient leur siège en jeu que de républicains, contrairement à 2016 d'ailleurs. Mais il n'empêche que le président, et il l'a déjà fait sur Twitter il y a quelques minutes, revendique une victoire énorme. Il parle pas du Sénat, mais on sait qu'il parle du Sénat, d'autant qu'il s'est, lui, beaucoup engagé dans les meetings, dans la campagne qu'il a faite pour ces élections sénatoriales. Il allait soutenir essentiellement des candidats républicains au Sénat, donc sans doute que ça a joué dans la galvanisation, dans la mobilisation de l'électorat conservateur, et que donc on a une élection qui est très très personnifiée de ce point de vue-là, mais aussi du fait que en face, les gens se sont mobilisés pour aller dire un non à Trump. Et il faudra voir la sociologie plus fine du vote à la fois républicain et démocrate, voir si les jeunes se sont mobilisés, par exemple, comment les latinos ont voté, est-ce qu'ils se sont déplacés, parce que ce sont deux types d'électorats sur lesquels on se déplace peu pour les moins de 25 ans, soit on a du mal à savoir pour qui ils allaient voter pour les latinos, donc ça va être intéressant d'analyser ça.
Et sur lesquels on n'a pas de statistiques, mais des reportages AFP qui laissent entendre que les jeunes se sont beaucoup déplacés, notamment sur les campus, et que les latinos peut-être un peu moins. Si on essaye d'estimer la perte de majorité des républicains, là je vois les résultats très provisoires, CNN par exemple pour la Chambre des représentants, 201 démocrates, 186 républicains, sachant que la majorité est à 218, c'est ça. Par contre, il y a des états qui ont bien résisté côté républicain, notamment le Texas, Ted Cruz reste sénateur, et la Floride
ouais.
où Ron DeSantis reste gouverneur, donc toujours une bonne popularité, une bonne stabilité de ce parti même.
Et apparemment les deux postes de sénateur aussi en Floride.
Indépendamment même de Donald Trump, je veux dire, cette popularité.
Oui, ce sont le Texas en particulier, c'est un État qui est traditionnellement conservateur. Ce qui serait intéressant de voir, c'est de combien Ted Cruz l'emporte face à Beto O'Rourke. Est-ce que c'est de justesse ou est-ce que c'est une victoire large? Et puis les autres scrutins dans cet État sont intéressants à observer. Mais oui, bien sûr, il y a l'Amérique rurale, l'Amérique du Midwest, l'Amérique traditionnellement conservatrice, depuis au moins 30 ans, a voté Trump. Et on est dans un pays qui est extrêmement clivé et qui le fait savoir. C'est-à-dire que les gens soutiennent leurs candidats, leurs idées, leurs valeurs. On voyait des reportages ces derniers jours sur vos antennes en particulier. Il y a une vraie ferveur en faveur de Trump parce que c'est le défenseur des valeurs conservatrices, d'une Amérique fermée sur elle-même. Beaucoup de ses électeurs sont très sceptiques vis-à-vis des régulations environnementales. Ouais. Donc cet électorat-là, il existe, il se manifeste et il sera là en 2020 sans doute. Reste à savoir comment Trump va peut-être essayer d'élargir sa base pendant les deux années qui viennent parce qu'il a peu de réservoir de voix. Enfin,
une base très stable, effectivement, voilà. Mais on ne sait pas si elle est extensible autour de 40% là, depuis le début, finalement.
Oui, et peut-être qu'il va devoir, dans les mois et les années qui viennent, s'adresser à la partie des électeurs qui ont voté pour lui en 2016 et qui sont déçus par sa politique, à savoir les gens qui sont plutôt défavorisés, qui voient que la réforme fiscale qu'il a fait voter favorise plutôt le big business, qui voient que les coupes dans les budgets sociaux les pénalisent et qui sont inquiets aussi. Le Washington Post le disait hier avec des sondages qui montrent que sur les questions de santé en particulier inquiètent les électeurs, et notamment les électeurs républicains. Comment ils vont pouvoir conserver une assurance santé si l'Obamacare continue d'être détricoté par Trump? Et par ailleurs, il y a des coupes dans Medicaid, dans l'assurance publique de santé. Donc il y a des inquiétudes par rapport à ça, et sans doute qu'il devra en tenir compte. Et d'ailleurs, il a essayé plusieurs fake news, plusieurs mensonges sur sa vision de l'Obamacare pendant la campagne, ce qui prouve bien qu'il y a un petit malaise par rapport à ça.
Oui, cette fameuse idée d'un Trump-care qui se substituerait à l'Obamacare. Alors, peut-être un personnage dont on peut parler, c'est Stacey Abrams, qui vient d'être remportée pour la première fois, femme noire, gouverneure de Géorgie. Peut-être que personnage intéressant, non seulement parce qu'elle était speaker à la Chambre, leader démocrate, très importante, noire aussi, je le disais. En quoi est-ce qu'elle peut incarner ce renouvellement? Est-ce que c'est vraiment cette ligne dont on dit qu'elle doit se gauchiser chez les démocrates?
On va voir, parce que il n'est pas dit que les instances du parti soient suffisamment prêtes à faire partir le curseur vers la gauche sur différents sujets, en particulier le coût des études supérieures. Est-ce qu'ils vont aller vers une assurance de santé universelle comme on peut avoir dans d'autres pays, dans des pays européens? Est-ce qu'ils vont lutter plus efficacement contre les inégalités économiques avec la proposition, par exemple, d'un salaire minimum obligatoire? C'est une des questions majeures qui vont se poser dans les 18 mois qui viennent. Est-ce que l'offre politique du Parti démocrate va se déplacer vers la gauche et va prendre en compte aussi des priorités de cet électorat qui jusqu'ici avait été peu ou mal appréhendé, comme la lutte contre les discriminations raciales, par exemple, la défense plus effective des droits des femmes, et des droits des femmes en particulier dans les minorités, parce que y a des inégalités qui se qui se cumulent pour certains groupes. On va voir, et peut-être ça dépendra aussi du leadership de ces nouvelles figures. Là c'est une gouverneure. On a aussi Lauren Underwood qui vient de gagner en Illinois pour un poste à la Chambre des représentants, qui est novice en politique, qui est infirmière, qui n'a rien à perdre en fait, qui va entre guillemets tout donner, si je puis dire, pour faire valoir son offre et son agenda. Donc ça fait partie des questions qu'on va devoir observer dans les mois qui viennent. Mais là, le parti démocrate, même s'il est dans une bonne dynamique ce soir, va devoir faire un gros effort de renouvellement de son offre politique pour coller entre guillemets aux demandes de l'électorat.
Eh bien, à surveiller de près, notamment ces femmes. Effectivement, on en reparlera. Ilhan Omar, Rachida Tlaib, évidemment Alexandra Ocasio-Cortez aussi, 29 ans, plus jeune élue au Congrès. Et prochaine bataille, sans doute le budget. Merci beaucoup, en tout cas Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS pour ce matin. Merci.